Après avoir déjoué des complots terroristes, les autorités exhortent la population de Melbourne à célébrer Noël en toute sérénité. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte un texte historique pour l'arrêt des colonies israéliennes. Et l'auteur de l'attentat de Berlin abattu par la police italienne. Et fin d'un détournement d'avion libyen à Malte. La police australienne a annoncé hier avoir déjoué un complot terroriste inspiré par le groupe État islamique. 7 personnes ont été arrêtées. Elles étaient soupçonnées de projeter des attentats le jour de Noël dans le centre de Melbourne. La police du Victoria invite la population de Melbourne aujourd'hui de célébrer Noël en toute confiance car les dispositifs de sécurité ont été renforcés. Graham Ashton, chef de la police du Victoria, affirme que des agents supplémentaires seront déployés aux endroits où les gens ont l'habitude de se rassembler.
That includes the festivities here in Fed Square, the religious observances that will take place over at St Paul's, the carols that we'll have a lot of people at tonight, right through to the Boxing Day test match, and then right through all of the activities across the state leading into New Year's Eve and then New Year's Day. Specific operations are being conducted right across all those events, and that'll mean that you'll see even more police involved. Certainly providing that reassuring presence to the community.
Et au sujet de ces complots donc terroristes à Melbourne, une des 7 personnes appréhendées et accusée d'avoir planifié donc des attentats contre des points de repère de la ville de Melbourne comparaissait devant un magistrat ce samedi matin. Cet homme âgé de 22 ans et résident du quartier de Broadmeadows a été appréhendé lors des raids de la police du Victoria contre 5 propriétés des quartiers nord de Melbourne. Les personnes appréhendées sont toutes accusées de planifier des attentats contre des points de repère dans le quartier d'affaires de Melbourne, dont Federation Square, la gare de Flinders Street, ainsi que la cathédrale Saint-Paul. Et les messages de Noël des églises catholiques et anglicanes d'Australie ont commencé à fuser. Et ces messages exhortent la population à avoir de l'espoir ainsi que de la compassion et surtout de se soucier de la vérité. L'archevêque catholique de Sydney, Anthony Fisher, a appelé les Australiens à faire preuve de courage après les incidents de type terroriste à travers le monde. Et selon Anthony Fisher, on pourrait facilement se dire que les horreurs qui secouent le monde sont sans fin. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, l'archevêque enjoint la population à se focaliser davantage sur les nombreuses promesses qu'offre l'année nouvelle. Glenn Davies, quant à lui, l'archevêque anglican de Sydney, rappelle que nous vivons dans une ère de post-vérité avec la prolifération des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.
What more do we want for Christmas than people who will tell us the truth? There is much in our world which is post-truth. But remember, at Christmas time, we celebrate the truth of Jesus, the God of truth, who declares, I am the way, the truth, and the life.
Et l'auteur présumé de l'attentat au camion Bélier de Berlin a été tué hier à Milan lors d'un contrôle policier. Abattu par le hasard par la police italienne, il était l'homme le plus recherché d'Europe depuis 4 jours. Mais malgré le soulagement général, la chancelière allemande Angela Merkel précise que la menace terroriste reste très élevée. Camille Marigot de RFI revient sur le parcours d'Annie Samri et les problèmes sécuritaires en Allemagne.
Le gouvernement est désormais soulagé, mais Angela Merkel précise que la menace terroriste reste très élevée. Elle promet donc des changements dans le dispositif de sécurité allemand. Mercredi déjà, une partie du plan annoncé en août par le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière est entrée en vigueur avec le renforcement de la vidéosurveillance dans les lieux publics. Mais l'Allemagne peut-elle aller encore plus loin? C'est ce que réclame la droite, notamment le CSU, allié conservateur d'Angela Merkel. Pourtant, certaines mesures comme la vidéosurveillance justement font débat dans le pays. Berlin s'y refuse et le marché de Noël attaqué lundi n'était pas équipé. La politique migratoire de la chancelière est aussi concernée par ces critiques. Jugée trop bienveillante à l'égard des réfugiés, elle a été sévèrement visée cette semaine, surtout par la droite populiste. Anis Amri était connu des services de police pour sa radicalisation islamiste. Il avait déposé une demande d'asile rejetée en juin dernier sans être interpellé ni expulsé du territoire. La Tunisie a nié jusqu'à cette semaine qu'il était l'un de ses ressortissants, ce qui lui a permis de rester en Allemagne. Depuis son arrivée dans le pays l'an dernier, le jeune homme avait circulé d'une région à l'autre en se faisant enregistrer sous différentes identités.
Et hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution condamnant les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. C'est la première fois depuis de nombreuses années que les États-Unis n'ont pas opposé un veto à un texte condamnant Israël. Ce texte exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est. Jean-Louis Portet de RFI revient sur ce vote historique.
L'abstention est historique. Dans le passé, les États-Unis ont toujours soutenu Israël en opposant leur veto à toute résolution du Conseil de sécurité hostile à l'État hébreu. Lors d'une résolution identique condamnant la colonisation des territoires palestiniens en 2011, Washington avait bloqué son adoption en utilisant son droit de veto. Mais depuis, les relations entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou se sont sérieusement détériorées, même si les États-Unis n'ont jamais réduit leur assistance militaire à Israël. Barack Obama n'a jamais caché sa désapprobation à l'égard des colonies de peuplement qui ont constitué un obstacle majeur à ses efforts pour parvenir à un accord pouvant conduire à la solution des deux États. En laissant adopter la résolution, il envoie un dernier message à Netanyahou pour condamner cette politique. C'est aussi une façon de compliquer un peu plus la tâche de son successeur, qui a clairement indiqué sa sympathie pour la droite israélienne, qui a nommé un ambassadeur pro-colonie et qui veut transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Dans un tweet, le président élu a déjà prévenu l'ONU qu'après le 20 janvier, les choses allaient changer. Et le président de la Chambre, Paul Ryan, a qualifié l'abstention américaine de honte pour les États-Unis.
C'était Jean-Louis Portet pour RFI. Et c'est un tournant dans la guerre en Syrie. En effet, le gouvernement syrien et ses alliés russes et iraniens ont totalement repris la ville d'Alep. Les derniers combattants rebelles ont d'ailleurs quitté la ville et l'opération d'évacuation des civils est terminée. Mais que reste-t-il d'Alep? Bien, Grégoire Sauvage nous peint un tableau de cette ville plusieurs fois millénaire mais profondément martyrisée.
Alep est l'une des plus vieilles cités au monde. Son origine remonterait au 5e millénaire avant notre ère. Elle a connu les dominations hittites, assyriennes, arabes, mongoles, mamelouks ou encore ottomanes. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vieille ville est aujourd'hui en ruine. La grande mosquée, édifiée au 8e siècle, classée elle aussi au patrimoine mondial, a énormément souffert. Occupée par les rebelles puis par les forces du régime, son minaret a été détruit en 2013, ainsi qu'une partie des murs entourant la cour intérieure de l'édifice. Autre monument emblématique d'Alep, la citadelle. Surplombant la vieille ville, cette forteresse médiévale, construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, recevait plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Depuis le début du conflit, elle a subi de nombreux dégâts. Une partie des remparts a notamment été détruite suite à une explosion dans un tunnel en 2015. Enfin, Alep est célèbre pour ses souks, parmi les plus anciens du Moyen-Orient. Plus grand marché couvert du monde, le souk al-Madina n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même, tout comme le souk al-Zarb à l'est de la grande mosquée.
Un tableau d'Alep peint par Grégoire Sauvage pour RFI. Mais la reprise d'Alep n'est pas forcément la fin de la guerre en Syrie. Il y a en effet une quarantaine de soldats syriens ont été tués lors des affrontements avec l'État islamique près de Palmyre. Les autorités maltaises disent détenir deux hommes responsables d'un détournement d'un avion libyen. Cet Airbus A320 de la compagnie libyenne Africa Airways, qui assurait un vol intérieur, avait été détourné vers Malte hier avec 118 personnes à bord. Le premier ministre maltais, Joseph Muscat, a annoncé la fin de la prise d'otage sur Twitter. Selon lui, les deux pirates de l'air présumés étaient munis d'une grenade et des deux pistolets et ils auraient menacé de faire sauter l'avion.
The two hijackers have been detained in custody and interrogations are ongoing. The rest of the crew and passengers are also being questioned to ascertain events. Once this interrogation process is completed, arrangements will be made to send the passengers and the crew members back to Libya with another Africa aircraft.
Et quelques informations brèves, donc concernant les festivités de Noël. Bien, en Île-de-France et dans les Alpes-Maritimes, le niveau alerte attentat est maintenu. La surveillance du territoire est renforcée sur les lieux de rassemblement et dans les gares. Hier, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a rendu visite aux policiers et militaires qui patrouillent dans la gare de Lyon à Paris. Et en Amérique latine, Medellín plus précisément, la deuxième ville de Colombie, entend bien changer son image de mégalopole violente et apaiser les tensions dans ses quartiers sensibles grâce à la magie de Noël. En 49 ans, elle est devenue la capitale de Noël en Amérique latine, appréciée aujourd'hui pour ses gigantesques illuminations de près de 26 mètres de hauteur. Noël à Medellín a aussi un sens social car il permet à 126 mères célibataires ou des gens des foyers pauvres de vivre et d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Et entre les décorations lumineuses dans les principales rues du centre-ville et le déferlement des touristes nationaux et étrangers, le Cap s'apprête à fêter un Noël à la mode sud-africaine. Les Blancs restent majoritaires du côté atlantique de la péninsule, tandis que les Noirs et les Métis fréquentent les plages plus chaudes de l'océan Indien. Et un coup d'œil météo pour ce samedi. Samedi, Perth 32 degrés, Adélaïde 37, Melbourne 33 degrés, Hobart 24, Canberra 30 degrés, Wollongong 26, Sydney 27, Newcastle 27 également, Brisbane 28, Cairns 32 et Darwin 32 degrés également. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 69 centimes d'euros et 72 centimes de dollars australiens. Et à présent, un rappel des principaux titre de l'actualité. Après avoir déjoué des complots terroristes, les autorités exhortent la population de Melbourne de célébrer Noël en toute sérénité. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte un texte historique pour l'arrêt des colonies israéliennes. Et l'auteur de l'attentat de Berlin a été abattu par la police italienne. Et fin d'un détournement d'avion libyen à Malte. Fin de ce journal, on fait une courte pause avant de passer au magazine des sports.